Si vous avez déjà essayé de perdre du poids ou de changer vos habitudes alimentaires, vous le savez, c'est difficile. Ça demande des efforts et beaucoup de motivation. Et peut-être que vous essayez même depuis des années et que malgré vos différents régimes ou vos rééquilibrages alimentaires, le sport que vous vous imposez, vous continuez à faire le yo-yo. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a dans votre cas d'autres leviers sur lesquels vous n'avez pas encore joué. Alors, quels sont ces freins qui nous empêchent de perdre du poids? Je vous en parle dans cette vidéo. Vous connaissez sûrement l'équation magique alimentation équilibrée plus activité physique égale santé, ou bien en ce qui nous concerne, manger mieux plus bouger plus égale minceur. Élémentaire, mon cher Watson. Mais en vérité, c'est pas si simple, parce que si c'était si facile, soyons honnêtes, tout le monde arriverait à perdre du poids durablement et l'industrie des régimes n'aurait plus qu'à mettre la clé sous la porte. En plus de quoi pourrait bien nous parler la presse féminine si elle ne pouvait plus nous expliquer comment perdre du poids après les fêtes ou comment ne pas ressembler à une baleine dans son bikini? Alors, on pourrait se demander, est-ce que ça vient du fait qu'on manque d'informations en matière de diététique et d'activité physique? Mais là encore, on est bien obligé de le constater, nous sommes relativement bien éduqués en la matière. Il y a tellement d'informations qui nous sont délivrées à propos de la nutrition et du sport. Il y a des ateliers de nutrition dans les écoles primaires. Quand on demande aux enfants ce qui est bon pour la santé et ce qu'il n'est pas, ils savent tout. Ils savent que bien manger veut dire manger des fruits, des légumes, du pain complet, boire suffisamment. Et ils savent aussi très bien qu'ils ne doivent pas trop manger de bonbons ou boire trop de soda. Les enfants sont très au courant de ce genre de choses et sont informés dès leur plus jeune âge sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène, de vie, de santé en général. Et c'est très rare aujourd'hui de rencontrer chez les enfants et chez les jeunes quelqu'un qui n'ait absolument aucune idée de ce qui est bon pour la santé et de ce qui ne l'est pas. Et c'est la même chose pour les adultes. Les médecins, les magazines, les émissions de télé, le rayon santé de la FNAC et même votre coiffeuse, tout le monde a son mot à dire en matière de santé et ne se prive pas de vous partager son petit conseil. Sans compter qu'on est littéralement bombardé de messages de santé publique. Attention à l'abus d'alcool, mangez 5 fruits et légumes par jour, fumez tu, ne mange pas trop sucré, trop gras, trop salé. C'est impossible de ne pas être au courant de ce qui est bon ou mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, on entend ça tous les jours. Je ne dors pas assez en ce moment, il faut que j'apprenne à me détendre, je suis trop stressée. Faut vraiment que j'arrête de manger des cochonneries. Ah, j'ai pas le temps de faire du sport. Donc on est quand même bien conscient des choses et au courant de ce qu'il faudrait faire. Donc en conclusion, le problème ne vient pas seulement d'un déficit en termes de connaissances et d'informations, il faut creuser un peu plus loin. J'en suis venue moi-même à cette conclusion quand j'ai constaté que malgré la motivation et les connaissances, c'était difficile de perdre du poids sur le long terme. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été préoccupées depuis des années, parfois même très jeunes, par leur poids et qui ont essayé par tous les moyens de maigrir, à qui on a expliqué de différentes manières ce qu'il fallait faire en matière de sport et de nutrition, qui ont lu énormément de livres sur le sujet et qui malgré tout n'arrivaient pas à perdre du poids. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement des freins plus profonds, psychologiques et sociaux, et en creusant pour découvrir la racine du problème, j'ai découvert la psychonutrition. La psychonutrition parle aussi de psychologie du comportement alimentaire, ne s'intéresse pas au quoi, que faut-il manger, mais au pourquoi est-ce que je mange tel ou tel aliment, ou au comment est-ce que je mange, qu'est-ce que je peux modifier dans mon comportement alimentaire et comment je peux le modifier lorsque je cherche à perdre du poids. Plus simplement, la psychonutrition s'intéresse aux facteurs psychologiques et sociaux qui influencent nos habitudes alimentaires. C'est une spécialité qui associe sciences de la nutrition et psychologie. Il s'agit d'un domaine de recherche relativement récent qui a débuté dans les années 1970 et qui intègre les apports de différentes approches telles que les neurosciences, les thérapies cognitives et comportementales ou encore la pleine conscience. Afin de modifier les habitudes alimentaires durablement et de reconstruire une relation saine avec la nourriture. Faisons maintenant un rapide survol des principaux thèmes auxquels s'intéresse la psychonutrition. Commençons par le cerveau de la bande. Quels sont les principaux facteurs mentaux qui peuvent influencer notre comportement alimentaire? Je ne peux pas ne pas parler ici de l'ennemi de santé publique numéro 1, le stress, qui dérègle gentiment nos petits neuromédiateurs et qui a pour conséquence entre autres d'augmenter notre appétit. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, il faut aussi parler de l'ennemi de santé publique numéro 2, le sucre, qui a un effet addictif et duquel il est parfois très dur de se désintoxiquer. Un autre facteur est le fait que bien souvent, on régule sa faim cognitivement et non pas physiologiquement. Je mange parce qu'on m'a dit de pas sauter le petit déjeuner, parce que c'est l'heure de ma pause de midi, parce que mon régime prévoit que je mange à 7h, ou bien parce que je n'arrive pas à refuser la part de gâteau que ma grand-mère a préparée spécialement pour moi ou qu'une collègue a apportée pour son anniversaire. Et finalement, je mange alors que je n'ai pas faim physiologiquement. C'est également dans la tête que se trouve notre motivation et notre détermination à changer nos habitudes alimentaires. Et cela marche un temps, mais malheureusement, ce contrôle cognitif est très vulnérable aux influences externes et aux émotions. Justement, parlons-en des facteurs émotionnels. C'est l'éléphant dans la pièce. Impossible de ne pas les voir, toutes ces émotions qui nous poussent à manger. Malgré tous nos efforts, elles contrarient nos calculs. Nous mangeons par frustration, par stress, par peur, par colère, par tristesse, par ennui. Les mauvaises humeurs entraînent une mauvaise alimentation. Impossible de résister aux distributeurs de barres de chocolat pendant la pause café ou à une bonne bière après le travail, quand ce ne sont pas des fringales compulsives à répétition. Et oui, compenser ces émotions par l'alimentation se termine souvent par une consommation excessive de nourriture sans contrôle. Et puisqu'on ne vit pas seul dans notre bulle, il y a également des facteurs extérieurs qui influencent notre comportement alimentaire, comme notre éducation par exemple. Est-ce que vous avez déjà été réconforté par un morceau de légumes quand vous étiez enfant? Ou bien est-ce que vous deviez systématiquement finir votre assiette même si vous n'aviez plus faim? Et bien sûr, notre société dans laquelle la nourriture est accessible partout et tout le temps, et où l'industrie du sucre règne en maître, n'aide pas non plus à nous encourager dans nos bonnes résolutions. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on comprend mieux pourquoi ce n'est pas suffisant de ne s'intéresser qu'à notre assiette et à nos baskets. Pour perdre du poids durablement, il faut aussi s'intéresser à ce qu'il se passe dans notre tête. Quand on commence à être un peu sensibilisé à ce sujet, on commence à y faire plus attention dans notre quotidien. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre toutes ces connaissances qui vont vous servir à devenir des mangeurs éclairés. Parce que vous mangerez en toute connaissance de cause, en comprenant vraiment tous les ressorts psychologiques qui sont derrière votre comportement alimentaire. Et je suis sûre que si vous êtes une personne qui cherche à perdre du poids, avec tous ces éclairages, vous allez vraiment pouvoir le faire beaucoup plus facilement, parce que vous n'allez pas le faire uniquement avec de la discipline et du contrôle, mais vous allez vraiment comprendre comment vous mangez et pourquoi, et vous allez vraiment savoir quoi faire. En fait, c'est comme avec les petits-enfants. Quand on leur interdit quelque chose, sans leur expliquer pourquoi, ils vont n'avoir qu'une envie, c'est de faire justement cette chose qui leur est interdite. Ou alors ils vont obéir au départ, mais ça va pas durer longtemps. Par contre, si on leur explique pourquoi il ne faut pas poser la main sur la plaque chauffante, alors ils vont se comporter différemment parce qu'ils auront compris pourquoi ça a du sens. Eh bien c'est la même chose avec le comportement alimentaire. Lorsque vous aurez découvert comment vous fonctionnez et quelles sont les problématiques en jeu dans vos habitudes alimentaires, vous pourrez tout naturellement construire une relation saine avec la nourriture et retrouver un comportement alimentaire plus écologique pour vous et votre corps. Et je vous souhaite une belle semaine à tous. Prenez soin de vous.